Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité sera Michel Husson, économiste et chercheur à l'IRES. Alors là, j'avoue, cet été, je suis allée à l'université d'été d'Attaque à Poitiers, un vrai nid d'économistes alternatifs. J'ai bien dit alternatifs, pas extrémistes. Or, l'année scolaire dernière, je m'étais un peu agacée en entendant dans les autres médias reprendre sans cesse les termes d'un économiste appelé Nicolas Bavrez. On avait de cesse de parler de « déclin français ». Ça sentait le coup fourré, l'annonce de la prétendue nécessité de l'abandon du modèle social français. Et j'ai eu raison parce que ça a été la thématique de la fin de l'année scolaire. Alors j'ai coincé Michel Husson dans les couloirs de l'université d'été d'Attaque. Je l'ai tiré jusque dans une salle à l'acoustique douteuse et je l'ai sommé de répondre à mes petites questions candides. Gentil comme à son ordinaire, il a obtempéré. Donc il y a quelque temps, ou c'est peut-être même encore de saison, on avait un certain Nicolas Bavrez qui n'arrêtait pas de dire que la France déclinait, que c'était catastrophique, qu'on allait bientôt toucher le fond probablement.
Oui, son livre s'appelle « La France qui tombe » et donc c'est un condensé de toutes les thèses qui sont développées depuis quelques années, d'ailleurs qui ont commencé au moment de la campagne de Chirac en 2002 sur le thème « La France est en train de reculer dans l'échelle, disons, des pays européens ». Et donc c'est un texte qui est moyennement intéressant parce qu'il est un peu exagéré, mais qui en même temps condense bien tout ce genre de thèse. Donc j'avais pêché 2-3 citations. Donc Bavrez parle de désertification industrielle et entrepreneuriale de la France et il rend responsable de cet état de fait d'une part le modèle social étatiste qu'il décrit ainsi et un modèle donc qui aurait pour effet d'appauvrir par la fin du travail et par l'impôt. Donc c'est des thèses, on peut dire, ultralibérales et qu'il faut discuter, d'autant plus que sous des formes moins, disons, extrémistes dans la présentation, on retrouve à peu près les mêmes idées, notamment dans le rapport Cantsu, dont Nicolas Sarkozy disait que c'était son livre de chevet, donc qui a une importance politique particulière, et qui fait un bilan à peu près similaire et propose une méthode pour sortir de cette situation de perte de vitesse. Alors là-dessus, il y a plein de choses à dire, et notamment à démonter le bilan en mettant en avant 2 ou 3 arguments, et notamment un qui est un test de ce point de vue-là, c'est que la France est parmi les pays du monde le 3e du point de vue des investissements qui proviennent de l'étranger. Donc c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de l'idée d'un pays répulsif, en somme, pour l'investissement international, et donc, au contraire, dont l'attractivité, pour prendre le terme qu'utilisent les économistes, est prouvée par ces chiffres. Pour donner une idée, il est 3e après la Chine, le Luxembourg, qui est un cas très particulier, parce que c'est des investissements de type financier essentiellement, évidemment, mais il vient y compris avant les États-Unis. C'est-à-dire que la France reçoit plus d'investissements extérieurs que les États-Unis en valeur absolue pour une taille, disons, économique ou de population qui est notoirement moins élevée. Mais ce discours sert à justifier les politiques néolibérales et les fameuses réformes qui sont censées rétablir cette compétitivité et insiste notamment sur le phénomène de désindustrialisation en oubliant d'une part qu'il est très difficile à mesurer, notamment parce qu'il y a des phénomènes comme l'externalisation, la sous-traitance qui font qu'on ne compte plus dans le secteur industriel des activités qui étaient auparavant et que d'autre part le mouvement général de déplacement, disons, de l'industrie vers les services, se retrouve dans tous les pays industrialisés, quelle que soit leur compétitivité. C'est un mouvement de fond qui correspond à l'évolution de la demande sociale, une certaine saturation de la demande de biens industriels, et qui n'est pas l'indice d'un déclin particulier de la France.
Et fin du travail, disiez-vous, donc c'est censé amener tout le monde dans le grand désespoir le plus profond. Ça va toucher tous les Français.
Alors, c'est exactement l'idée de ce tableau apocalyptique et de parler de la France en tant qu'entité qui déclinerait, c'est effectivement de fonder l'idée que on est tous sur le même bateau et qu'on a des phénomènes pervers qui nuisent à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux entreprises, puisqu'il y aurait cette fameuse désertification qu'on retrouve pas dans les statistiques de profit des entreprises françaises qui sont absolument en florissance aujourd'hui, mais surtout les salariés, les chômeurs, les précaires, etc., qui seraient, disons, dans un espèce de politique de gribouille, qui, en voulant faire atteindre un certain nombre de résultats, en fait, auraient des résultats strictement inverses. Donc, c'est l'idée que toutes les politiques, et notamment, il y a de ce point de vue-là, à la fois dans Camp de Sud, dans Bavrez, et puis dans tout le discours aujourd'hui d'analyse de la crise de la montée du chômage, un discours sur le thème « les Français ne travaillent pas assez », et donc, ne travaillant pas assez, ils sont pas compétitifs, et les 35 heures ont été de ce point de vue, alors pour reprendre l'expression de Bavrez, c'est quand même assez hallucinante, une arme de destruction massive qui organiserait l'euthanasie du travail. Donc cette fin du travail serait le produit de politiques conçues théoriquement pour créer des emplois, mais qui serait complètement perverse et aurait un effet complètement inverse à celui attendu. Le déroulé, disons, de cette argumentation consiste à dire on est tous sur le même bateau, on est tous victimes de politiques mal faites, mal conçues. Donc le vrai fond du problème, des causes de cette perte de compétitivité et donc des pertes d'emploi que ça admet comme conséquence, c'est les rigidités. C'est-à-dire que le grand thème aujourd'hui dans la thématique néolibérale qui se surajoute au thème sur le coût du travail, etc., c'est l'idée que le marché du travail, notamment, est trop rigide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fluidité, de mouvement, de rotation sur ce marché, que les entreprises hésitent à embaucher parce qu'elles savent ensuite qu'il sera plus difficile de licencier. Et donc tout le bilan, comme une espèce d'entonnoir, va converger vers cette idée que c'est les rigidités. Et ces rigidités qui sont, alors c'est aussi la thématique qu'on retrouve par exemple à l'OCDE, c'est ce qu'ils appellent LPE, législation protectrice de l'emploi, comme terme générique, ont un effet pervers qu'en fait ils deviennent des obstacles à l'embauche. Bon, et donc le résultat, c'est les propositions sont de deux ordres. D'une part, modifier les contrats de travail et les réunifier, mais sur la base de quelque chose qui soit un contrat dégradé par rapport au contrat à durée indéterminée, qui est, lui, l'exemple de la rigidité, avec une argumentation, à mon avis, très hypocrite sur le thème c'est terrible, cette précarité, cette diversité, cette insécurité sociale. Donc, en réunifiant les contrats de travail, on va la résorber. Bon, sauf que en pratique, par exemple, si on regarde les mesures de Villepin, qui sont dans le fil directeur de ces rapports. Par exemple, le contrat nouvelle embauche est un contrat qui instaure une précarité et qui rompt avec un des principes essentiels du Code du travail en rendant superflu le motif de licenciement. Donc, qui revient à quelque chose qui est antérieur, disons, à tout ce qui a accompagné le développement social, à savoir une espèce de contrat de louage où on peut, à volonté, embaucher, mais surtout licencier. Et l'autre proposition qui va avec celle-là, c'est justement l'idée de modifier tout le système d'allocation chômage en instituant une taxe sur les licenciements qui serait une espèce de taxe, bon, par définition moins élevée que les allocations, que les cotisations chômage que doivent payer les entrepreneurs, les employeurs aujourd'hui, mais qui, en échange de cette taxe en somme libératoire, ça leur ouvrirait le droit à licencier et donc à avoir une flexibilité maximale. Et donc, quand on décortique jusqu'au bout, on s'aperçoit que cette espèce de rhétorique consiste à dire on est tous sur le même bateau, victimes de même cause, mais on débouche sur des réformes qui sont absolument unilatérales, c'est-à-dire qui sont au détriment complètement des salariés, des chômeurs, des précaires, etc. Puisque dans le même temps, il y a un autre volet qui est de rendre plus dures les conditions d'allocation de chômage, de réduire le temps d'indemnisation, etc. Et donc, on arrive à fabriquer une idéologie sur laquelle tout le monde est sur le même bateau pour légitimer des réformes, enfin, entre guillemets, plutôt des contre-réformes, qui vont strictement dégrader la situation, disons, générale des salariés.
Des souris des hommes, 93.1, et toujours en compagnie de Michel Husson, qui parle toujours d'un ton doux et modeste, vous l'aurez remarqué. Mais soyez bien attentifs, ce qu'il dit change vraiment ce que l'on entend d'ordinaire.
Mais quand même, je me dis que peut-être que Nicolas Bavrez a raison, ou du moins que les personnes qui ensuite prennent des mesures telles que celles que vous avez énoncées précédemment ont raison, parce qu'il y a quand même un sérieux problème de compétitivité de la France par rapport aux autres pays du monde, non ?
Oui, alors ça c'est le volet complémentaire, mais qui touche plus au coût du travail, aux cotisations sociales, enfin au coût du travail élargi. Et là, il faut resituer ça, parce que je pense bon, il y a une véritable escroquerie intellectuelle et qu'on peut décortiquer au plan de la logique un petit peu économique élémentaire. Bon. Si on prend la répartition des revenus entre maintenant et il y a 20 ans, en gros, et qu'on considère les trois grands blocs, il y a d'un côté les salaires, de l'autre côté le profit qui s'investit, donc qui est légitime puisqu'il s'investit, bon, sans entrer dans la nature de l'investissement. Mmh. Et puis, ce qui reste, il y a une partie d'impôts payés par les entreprises, et puis il y a la distribution de revenus financiers, les frais financiers, les dividendes versés aux actionnaires, etc. Bon. Cette répartition s'est considérablement modifiée ces 20 ans. C'est-à-dire que si on veut donner des ordres de grandeur, des faits stylisés, il y a 20 ans, au début des années 80, la part des salaires était à 70%, elle est descendue à 60%. La part de l'investissement, et c'est ça qui est extrêmement important, était environ à 20%. Elle fluctue selon la conjoncture, mais en moyenne, elle est restée à 20%. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. C'est-à-dire que le rétablissement, la baisse de la part des salaires, n'a pas, contrairement aux hypothèses néolibérales, dopé l'investissement et permis aux entreprises d'investir plus et donc probablement, potentiellement, de créer des emplois. En revanche, ce qui est augmenté, pour arriver au total de 100%, c'est la part qui va aux revenus financiers. Donc si on les mélange avec les impôts, elle était donc de 10%, mais encore une fois, c'est des chiffres un peu arrondis, il y a 20 ans, et elle est passée à 20% aujourd'hui. Donc il y a 10 points de PIB, plus ou moins, selon les sources, enfin bref, qui sont passés des salaires, non pas à l'investissement, encore une fois, mais aux revenus financiers.
Revenus financiers, ça veut dire les sous qu'on donne aux gens qui ont investi de l'argent dans l'entreprise.
Voilà, exactement.
Les dividendes,
ouais,
par exemple.
Ouais, exactement, les dividendes. Et donc, aujourd'hui, on voit de manière caricaturale cette espèce de division, de répartition des richesses. Sur la période très récente, tous les économistes, y compris les libéraux, sont interloqués par le fait que les entreprises font, contrairement à la thèse des clinistes, là, font des profits tout à fait considérables et qu'à la limite, ils ne savent pas qu'en faire. En tout cas, ils n'investissent pas et principalement l'utilisent soit pour se désendetter, soit pour distribuer ses dividendes aux actionnaires, soit pour investir, mais pas sur le marché intérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, sur l'investissement international. Donc, alors, ce que ça montre par rapport à la compétitivité, c'est un raisonnement qui est à la fois simple, enfin un peu compliqué, c'est que si la pression de la compétitivité était telle qu'il faille s'aligner sur les prix du marché mondial, puisque c'est ça l'argument. À ce moment, normalement, la baisse des salaires aurait dû être répercutée sur les prix. Hein, c'est-à-dire, s'il y a eu 10% de baisse des salaires, les prix auraient dû baisser dans la même proportion. Et dans ce cas-là, le test, c'est que la part des salaires serait restée constante. Hein, et donc, parce que chaque fois qu'on gagnait, qu'on grignotait sur les salaires, on répercutait ça sur une baisse de prix because la compétitivité mondiale. Or, le fait même que la part des salaires est baissée signifie qu'on n'a pas répercuté et qu'il y a ce qu'on appelle un comportement de marge des entreprises qui utilisent une partie de ce qu'ils gagnent, ce qu'ils grignotent sur les salaires, non pas pour baisser leur prix à l'export, mais pour augmenter leur taux de marge. Comme ils n'investissent pas dans les mêmes proportions, ils redistribuent les dividendes. Et par conséquent, ce point est tout à fait important parce qu'il signifie qu'une des escroqueries, disons, supplémentaires, c'est qu'on oublie de dire que dans ce qui détermine le prix et la compétitivité, il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs séries de coûts. Il y a évidemment les coûts salariaux qui sont la partie la plus importante, mais il y a aussi les dividendes. C'est-à-dire que du point de vue de la compétitivité, c'est aussi coûteux en termes de compétitivité de verser 100 en salaire ou 100 en dividendes. Hein, et par conséquent, il y a un lien direct entre cette analyse et le fait qu'on peut obtenir le même niveau de compétitivité avec une répartition différente de ces coûts. Et que on pourrait, sans toucher à cette sacro-sainte compétitivité, qu'on peut discuter ensuite par ailleurs, modifier la répartition, c'est-à-dire faire une augmentation de la part des salaires qui est nécessaire pour relancer soit la consommation, soit les créations d'emplois via la réduction du temps de travail, soit la protection sociale, etc. On peut discuter des usages, mais le résultat de toutes ces politiques, disons, alternatives, serait d'augmenter la part des salaires Et cette augmentation est tolérable à partir du moment où on ne prend pas comme dogme intangible que la part des dividendes et des revenus financiers doit rester au niveau complètement extravagant et contre-productif, puisqu'elle n'est pas porteuse d'investissement, qui est le sien aujourd'hui. Donc, dans les dogmes souterrains, on pourrait dire, l'argumentaire libéral, c'est pas réellement, il faut s'aligner sur la compétition mondiale, mais c'est plus fondamentalement et plus précisément, on ne pas touche aux revenus financiers.
Des sous et des hommes, 93.1, toujours en compagnie de Michel Husson, économiste, chercheur à l'IRES.
Alors j'étais un petit peu étonnée de ce que vous disiez là tout de suite, parce que j'étais en train presque de me marrer intérieurement, parce que est-ce que ça veut dire que par exemple, les salariés devraient faire des manifestations contre la distribution excessive de dividendes, de façon justement à rétablir la compétitivité française et donc favoriser l'emploi?
Je ne sais pas si ça pourrait se prendre cette forme-là, mais dans la perception des contraintes, c'est exactement... D'ailleurs, je crois que c'est un phénomène relativement répandu. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas récemment, je crois que c'est chez Total, de salariés qui faisaient le rapport entre le blocage de leur salaire et l'augmentation des profits et des dividendes versés. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison. C'est pas un phénomène, un raisonnement simpliste, qui est de dire qu'ils pourraient être ventilés de manière différente et que ça, sans toucher au prix total, quoi. C'est-à-dire, le grand dogme des libéraux, c'est que toute augmentation de salaire va forcément se répercuter sur les prix. Et cette répercussion, elle signifie qu'on laisse les autres éléments, disons, de la répartition des revenus inchangés. D'autre part, la grande différence entre les deux types de répartition, c'est que la ventilation vers la masse salariale, enfin une augmentation de la masse salariale, permet de créer des emplois sous des formes qui peuvent, encore une fois, l'augmentation de la consommation des salariés, qui est immédiate quand on distribue du salaire, la réduction du temps de travail, qui est un autre moyen qu'il faudrait, bon, qui est un autre sujet, mais sur lequel qui a une manière de redistribuer le temps de travail en même temps que la masse salariale. Troisième élément, l'augmentation des taux de cotisation, qui est un autre dogme, enfin, qui est le même, ou, en fin de compte, pour financer l'augmentation des dépenses de santé et les retraites sans basculer sur des systèmes privés totalement inégalitaires, etc. Et le grand tournant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est frappant, notamment en France et en Allemagne, qui sont effectivement les deux pays, les grands pays européens, mais qui ont de mauvais résultats par rapport à la moyenne européenne en termes de croissance et d'emploi, c'est qu'ils sont caractérisés par un écart, une espèce d'ouverture des ciseaux, entre le marché intérieur qui est plat parce qu'on veut être compétitif, donc on bloque les salaires, et les exportations, dans le cas allemand, qui ont progressé sur les 2-3 ans, les 2-3 années récentes, ils ont progressé de 14% alors que le marché intérieur est quasiment plat. Et du côté français, ce ciseau se retrouve principalement dans l'utilisation de l'investissement, c'est-à-dire que l'investissement, puisque le marché intérieur est bloqué par le gel des salaires, se fait à l'étranger. Et donc, on a un effet, disons, de cette acceptation de la compétitivité de la mondialisation, qui est pervers en termes d'emploi, parce que ce qu'on constate, aussi bien dans le cas français que dans le cas allemand, c'est que les emplois qu'on gagne grâce à un meilleur dynamisme à l'extérieur sont plus que compensés par ceux qu'on perd par l'étouffement du marché intérieur. Et qu'il y a un lien direct entre cette recherche de compétitivité à tout prix, de maintien de la part de la part des revenus financiers et la montée du chômage. Et que c'est ça la vraie raison qui a rien à voir avec les rigidités ou le prétendu manque de fluidité du marché du travail. D'ailleurs, en France, on peut faire le test. Entre 1997 et 2001, on a créé 2 millions d'emplois parce que, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, l'économie est repartie. Ça ne s'explique pas par une fluidité plus grande, magique du marché du travail qui aurait brusquement disparu en 2001 quand le chômage s'est mis à remonter. Donc ces explications ne rendent pas compte des réalités économiques et sont une espèce de voile par rapport aux réalités qui sont la volonté de maintenir coûte que coûte cette répartition des revenus.
Mais il y a peut-être des gens qui pourraient vous dire « Oui, mais c'est nécessaire absolument de verser des dividendes qui soient assez importantes. Et la France ne pourrait pas avoir des dividendes moins importantes que les autres pays du monde parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus d'investissement. » Enfin, on doit pouvoir vous répondre ça. C'est une nécessité, cette distribution de dividendes importante.
Alors c'est une espèce de nécessité, enfin de contrainte que se sont fabriquées toutes les politiques libérales en libéralisant complètement le mouvement des capitaux. C'est-à-dire qu'on est effectivement, on s'est privé des moyens de contrôler les mouvements de capitaux, et aujourd'hui on assiste à une course où l'argument massue est de dire si on ne réalise pas, si on ne protège pas la rentabilité des placements financiers, alors les capitaux vont sortir et aller dans les pays voisins. Et comme dans chaque pays européen on tient le même raisonnement, on a une course vers le bas, vers l'alignement vers le bas de la rentabilité, enfin de, disons, de la fiscalité, là effectivement intervient la dimension européenne. Les alternatives, c'est au niveau européen minimal, puisqu'il y a une mise en concurrence directe, qui est d'établir une unification dans la fiscalité des bénéfices des entreprises et rendre impossible, disons, la fuite des capitaux attirés par le pays voisin qui n'aurait pas pris les mêmes mesures. Et en même temps, il faut bien se dire que, comme disait Krugman dans un article où il tournait autour du pot pour, avant de lâcher ce mot horrible, lui c'était, il parlait de contrôle des champs, mais il y a un moment où si la société décide que l'orientation relative des investissements, du marché intérieur, des exportations, il faut effectivement qu'elle se donne le moyen de contrôler et d'imposer aux mouvements de capitaux ce type d'orientation, une priorité qui correspond toujours à des priorités sociales par rapport à disons, une répartition très, de plus en plus inégalitaire des richesses.
Et oui, c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Michel Husson de l'IRES. Et la semaine prochaine, suite logique de cette émission. On nous dit maintenant à l'envi que le modèle social français est obsolète. Ah bon? Est-ce si sûr? C'est ce que nous verrons justement la semaine prochaine, eh bien, à nouveau avec Michel Husson. À la semaine prochaine!